Déambulation.
Pour cette nouvelle déambulation, retour sur les rencontres 2025 d'écologie au quotidien. On se retrouve à Die, en compagnie de Gilbert David, qui nous emmène au bord de la Drôme.
Je m'appelle Gilbert David, je suis de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité, et on s'occupe principalement de toute la faune sauvage du Diois, de France, hein, ça dépend à quel niveau on se place.
Vous avez animé une activité avec un groupe, qu'est-ce que c'était cette activité, en quoi ça consistait ?
Le thème de cette sortie était la ripisylve, c'est-à-dire la forêt des bords de l'eau. On va passer par là. Essayez de passer parce qu'on va monter, après c'est très facile. C'est une forêt qui est assez particulière, elle a des buts, enfin un intérêt extraordinaire. Déjà, lorsqu'il y a des arbres, ça fait de l'ombre, donc l'eau se réchauffe moins vite, et la faune aquatique est protégée. Donc il y a moins de chaleur, donc il y a plus d'oxygène dans l'eau, donc il y a les truites qui peuvent encore venir, ou d'autres organismes invertébrés, tout ça. Donc ça fait de l'ombre. Ça tient les berges, donc ça évite un peu l'érosion, même si, comme je vous ai dit, hein, ça bouge. C'est un milieu instable.
Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer ?
Eh bien, je m'appelle Jean-Claude, bonjour.
Tu habites dans la Drôme ?
Oui, j'habite à côté de Valence.
Et c'est donc cette balade au bord de la Drôme, pour le coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ?
Eh bien déjà, j'aime bien me promener, j'aime bien la nature, j'aime bien me balader au bord des rivières. Donc tout était réuni, en plus avec un guide passionnant. Donc tout était réuni pour faire une belle balade cet après-midi. Et même le temps, quoi, il a fait bon. Quelques gouttes d'eau enfin, mais pas trop gênantes.
Un des temps racontés qui t'a particulièrement marqué ?
Ben, c'est toute la faune qui existe, qui vit au bord de la rivière, qu'on ne voit jamais, ou presque jamais, ou très rarement, il faut être très attentif. Mais on voit des petits signes qui montrent qu'il y a ici un castor, là il y a un écureuil, etc. Donc c'est très intéressant de voir ces petits signaux qui ne sont pas grand-chose, mais qui sont des preuves de vie très intéressantes.
Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a assez d'endroits où on apprend ce genre de signaux ou ce genre de signes ?
Oh, bien sûr que non. Non, non, ça, il faudrait l'apprendre dès l'école primaire. Non, non, ça, c'est passionnant. C'est apprendre la vie et on ne le fait pas assez. Oui, c'est un manque considérable.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à ce temps qu'on est en train de faire, à cette balade ?
Écoute, j'ai toujours été entourée d'arbres. Toujours. Parce que quel que soit l'endroit où j'ai vécu, j'allais toujours en forêt, à pied, à cheval, à pied. J'aime les arbres, c'est quelque chose de... Enfin, tu vois, c'est un élan, c'est naturel. Enfin, je sais pas, ça fait partie de moi depuis toujours. Et donc là, je me suis dit, oh, tiens, on va mettre un peu de théorie, un peu de, tu vois, un peu de... Ouais, de connaissances théoriques autour de tout ça. C'est super intéressant. Hein. Je ne vais pas tout retenir, puis je n'ai pas pris de notes parce que je suis fainéante, mais, mais c'est super intéressant.
Et qu'est-ce que tu penses t'as le plus marqué dans les informations qu'on a eues ?
Les informations de Gilbert ? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué ? Eh bien, écoute, il n'y a pas vraiment de scoop entre guillemets qui m'aurait frappé ou qui m'aurait, parce qu'en fait je me rends compte qu'à chaque fois que j'apprends des choses sur la nature, il y a une logique interne tellement présente, tellement incroyable, que voilà, ça me semble, tout me semble, tu vois, naturel. Je peux pas dire un autre terme que ça, naturel, fluide, logique. Voilà.
Comme si c'est des choses que tu avais toujours su.
Presque, c'est tout à fait ça. Ouais, bah oui, ça fait partie intégrante de nous. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça. Tu l'as, la réponse, exactement ça fait partie de nous. Enfin, pour moi, c'est une évidence.
Vous voyez ça, là ? Le lierre. Il a un beau feuillage, hein, c'est incroyable. Or le lierre, moi je suis un amoureux du lierre, moi j'aime bien. Vous voyez qu'il s'arrête au bout d'un moment. Hein. Ça veut dire que l'arbre est vivant. Si l'arbre était mort, le lierre l'aurait envahi complètement. En fait, pas fou le lierre. Il a besoin de l'arbre pour, comme support. Ce n'est pas un parasite. Il a des feuilles vertes. Donc il fait sa chlorophylle, sa photosynthèse grâce à la chlorophylle. Donc ce n'est pas, c'est pas un parasite. Et ce n'est même pas un semi-parasite, comme le gui. Le gui, lui, il va chercher de la sève dans l'arbre et il se la transforme dans une pointe de la sève.
Est-ce que vous avez des exemples à donner de ce qu'on a vu au bord de l'eau?
Voilà, eh ben, au point de vue végétation, on a vu des peupliers noirs, des peupliers blancs, du frêne, du cornouiller sanguin, des aulnes, des ormes, enfin voilà. Donc au point de vue végétation, c'est assez dense. On n'a pas vu, mais on aurait pu voir. Enfin si, on a vu un cincle, mais pas tout le monde. Le cincle, c'est un merle plongeur. C'est un grosseur d'un merle avec un peu le ventre blanc et qui va chercher sa nourriture au fond de l'eau. Donc c'est le cincle plongeur, comme son nom l'indique. On a parlé du harle-bièvre aussi. Donc c'est un canard qui niche dans les arbres, assez particulier donc. On a parlé du castor, on a parlé de la loutre, on a parlé d'autres espèces, un peu des mésanges, un peu aussi des espèces xylophages, donc qui mangent le bois. Enfin, voilà. On a essayé de faire un tour de tout ce qu'on pourrait voir dans cette forêt de ripisylves.
Alors, je voulais quand même vous faire mesurer des arbres. Vous savez faire comment on mesure des arbres? On va sortir un peu de la forêt, là. Et je vais vous montrer ça, avec deux morceaux de bois. Hein. Vous voulez essayer? Il faut prendre hein, des bâtons, n'importe la longueur, pour que ce soit de la même longueur. Ouais. Tu prends deux bâtons de la même longueur. Bon, ceux-là, ils sont pas la même longueur. On le casse un peu, tu vois. Voilà, tac. Tu fais un angle droit, un peu tordu en plus. Fais un angle droit, comme ça, toi. De façon que tu puisses voir les deux bouts. Tu le mets contre ton œil et tu essayes de faire correspondre la partie basse avec le tronc, avec le bas de l'arbre et la partie haute avec la cime de l'arbre. Et lorsque tu es bien à la bonne longueur, ça veut dire que tu es exactement celui que tu lèves.
Pourquoi tu étais venu à ce temps-là de balade au bord de la Drôme, toi?
Alors, c'est des balades que je fais souvent et je pense que je la fais sans voir ce que je vois. Et je pensais qu'avec un accompagnateur, il m'expliquerait différentes choses. Et effectivement, j'ai vu des choses que je ne voyais pas, comme un arbre presque tombé par un castor, des noms d'arbres que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à mesurer un arbre, la hauteur d'un arbre. Donc c'est une balade qui vaut le coup.
Et c'est quoi que tu vas retenir le plus, qui t'a le plus marqué, un petit moment?
Eh bien, je pense que je vais amener mes petits-enfants à cet arbre mangé par un castor. Je sais mesurer un arbre, donc je vais essayer de mesurer un arbre qui pousse dans mon pré. Et voilà, ça vaut le coup de regarder cette forêt spéciale, là, cette ripisylve, avec quelqu'un qui connaît ça bien. Voilà.
Tu penses qu'on est assez éduqués sur les plantes et toutes les plantes de la Drôme dans laquelle on vit au final?
Non, assez peu. Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas tellement éduquée. Et surtout, je ne sais pas voir ce qu'il y a sous mes yeux.
C'est-à-dire?
Eh ben, c'est-à-dire que je passe devant, je pense à autre chose, je me balade dans la nature, je discute avec un compagnon de route et finalement on ne regarde pas. Et donc là aussi on a vu des trous faits par des pics, si je peux passer devant sans rien voir. Voilà.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci.
Le castor est revenu en fait parce qu'il avait disparu. Il est arrivé il y a une quarantaine d'années. Il est arrivé tout seul. Ouais. Alors, en fait, il avait disparu parce qu'on prenait pour les gens pour les glandes de castoreum. Vous savez, les trucs de beauté qu'on se met sur le visage, là. Bah, le support, c'est du castoreum. Donc, c'est une glande qui a le castor. Et c'est un bon support de tous les parfums. Il y a ça, il y a la peau aussi. Et puis, anecdotiquement, au Moyen-Âge, le vendredi, c'était interdit de manger de la viande. Mais on mangeait du castor parce qu'il avait une peau, la queue était écaillée, on disait que c'est un poisson. En fait, il avait complètement disparu et il est revenu. Il y en a quelques-uns qui ont survécu en Camargue, dans les ruisseaux d'Ardèche. En fin de compte, il se nourrit, pas du bois, mais de ce qu'il y a sous l'écorce. Donc il enlève l'écorce et il va manger ce qu'on appelle le liber. Le liber, c'est la partie vivante du bois. Il faut savoir que le bois, c'est pratiquement, là il l'a bien coupé. En fait, quand c'est un gros tronc comme ça, lui ça ne l'intéresse pas. Lui ce qu'il veut, c'est des trucs comme ça. Parce que sur ça, il y a beaucoup plus à manger pour lui que sur un gros tronc. Le gros tronc, il le coupe pour qu'il puisse avoir des rejets, parce que là, c'est bien bon, hein. C'est le dessert.
C'est plus tendre.
Hein ?
C'est plus tendre.
Ah oui, et puis en plus, c'est ce qui est plus nourrissant, parce qu'il se nourrit que de la partie vivante du bois. C'est son jardin, oui, c'est ce que je dis. Ouais, ouais. Et il a des mangeoires, même, il a une salle à manger. Parce que là, il y a un petit coin là-bas où il mange toujours au même endroit, parce qu'il sent bien que là, ça va bien. En fait, il ne faut pas être stressé pour manger.
Pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez quand vous animez ces balades que les gens retiennent, repartent avec, avec quoi ?
Ça dépend ce que viennent chercher les gens, déjà. Alors, il y en a qui viennent pour prendre l'air, ça arrive souvent. Avant, comme c'était en fin des rencontres et que ça durait 10 jours, souvent, il y en a qui voulaient s'oxygéner, donc bon, c'était une façon de le faire. Puis d'apprendre un peu des choses sur la nature, sur... la faune, la flore. Donc c'était... Moi, ce que j'essayais de faire passer, c'était que la forêt et la faune, elles se débrouillent beaucoup mieux si on la laisse tranquille. Donc voilà, je suis un peu pour... Je suis complètement pour la libre évolution de la nature. Sachant qu'on est humain et qu'on a besoin de la nature, elle n'a pas besoin de nous, mais nous, on a besoin d'elle. Et donc, il faut en exploiter un peu pour pouvoir vivre comme on voit, comme on a des poutres ici ou des tables. Donc, il faut retirer quand même un peu de bois de la forêt. Mais tout ce qui n'est pas indispensable, si on peut laisser au moins, moi je dis 30%, c'est ce que dit le GIEC hein, aussi, c'est 30% de forêt en libre évolution, d'un seul tenant, pour moi c'est mieux. J'essaye de faire passer cette idée de libre évolution, de nature libre, et de l'exploiter raisonnablement sur le reste. Donc 70%, ça fait déjà pas mal. Voilà, donc ce que j'aimerais faire passer, c'est ça. C'est une nature en libre évolution est beaucoup plus résiliente et beaucoup plus intéressante pour nous aussi, parce que ça capte plus de CO2. C'est beaucoup plus résilient que n'importe quelle forme d'exploitation.
Un grand merci aux participantes et aux participants qui ont pris la parole à notre micro, et surtout à Gilbert David qui a guidé cette balade.